Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Alain sur l'antenne, sur la libre antenne.
Voilà.
Bonsoir Alain.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Et merci de m'écouter.
Je vous
parce
en prie.
En fait, j'écoute votre émission depuis longtemps, parce que je suis technicien en plus en radio-télévision.
Oui.
Et je suis en retraite. Et j'ai eu l'occasion souvent, quand j'avais des insomnies, d'écouter vos émissions.
D'accord.
Alors moi, je viens vous parler du test d'effort qui est un handicap pour pas mal de monde. Parce que figurez-vous que ce test d'effort, parce que moi j'étais cardiaque, et ils m'ont soigné 10 ans pour l'estomac. Et au bout de 10 ans, j'ai fait un infarctus. Là, j'étais amené à l'hôpital au bout de 6 jours. Je suis resté 6 jours en infarctus.
Mmh.
Ils n'ont rien vu, ni dans l'électrocardiogramme, ni dans la prise de son. Ce n'est qu'une gastro-entérologue que j'ai vue le 5e jour. Il dit, écoutez, madame, moi, je ne peux rien soulever, quoi que ce soit, j'ai une douleur dans la poitrine, c'est épouvantable. Elle me dit, mais ça, c'est pas l'estomac, ça. Ça, c'est le cœur. Alors là, du coup, réveil du cardiologue, un des cardiologues de l'hôpital, fait une prise de son, ne bougez plus, monsieur, vous êtes en état de mortel. Vous rigolez, ça fait 6 jours que je suis comme ça, moi, les pieds en l'air dans mon canapé, la tête en bas. J'ai vraiment eu de la chance, quoi. Donc, je pars me faire mettre un stent. J'arrive à l'hôpital, et là, l'hôpital me dit, écoutez, monsieur, on ne peut pas vous prendre tout de suite, le cardiologue, il est en week-end aussi, grand hôpital quand même, hein. Et puis, on m'a mis sous perf, et puis on verra ça lundi. En plus, là, j'ai téléphoné à Dieu, là-haut, Jésus me dit, t'inquiète pas, on surveille, ça va, bon, parce que je suis croyant, en plus, alors, je ne suis pas pratiquant, mais très croyant. Alors, résultat des courses, le lundi, il me met sur la table d'opération, il regarde, effectivement, j'ai la coronaire pliée en deux, il n'y a rien qui passe. Et puis, il y a une réflexion d'un des cardios qui est là, mais il aurait dû mourir depuis longtemps, t'as vu dans quel état que c'est, toi. Et l'autre, il dit comme ça, ben oui, mais il a enfin une petite artère qui marche, tu vois, en dessous le cœur, là, ceci, cela. Bref, j'entends tout ça en direct, parce que quand on est sur la table, en fait, de faire passer la gaine, on est complètement conscient. Hein.
Mm-hmm.
Résultat des courses, il me met un stent. Et puis, je pars de là 2 jours après. Et puis, comme je suis un homme un petit peu inconscient, je suis installateur d'antenne de télévision.
Oui.
Et je pars travailler comme ça. Le problème, c'est que j'ai des douleurs à la poitrine, la même chose de temps en temps. Alors, on a un petit produit à mettre. Et puis, ma foi, bah, ça passe hein, avec ou ça passe pas. Puis, on tourne à l'hôpital. Et puis, l'hôpital dit, non, monsieur, vous vous plaignez beaucoup. Vous êtes un comédien. Vous savez, les hommes douillés, ça, c'est un grand mot. Alors, c'est formidable. Hein. Les hommes sont toujours douillés. Bref, je continue comme ça. Et puis, ça dure... Oh, j'étais au moins une vingtaine de fois à l'hôpital de 2010 à 2019. À 2019, je fais un autre infarctus. Mais là, je tombe raide par terre et je ne peux plus bouger. Donc, le SOS médecin sous bazar arrive, et là, il m'envoie directement à l'hôpital de Saint-Brieuc. Et là, je tombe sur un chirurgien qui vient de la salle pétrière, et je lui dis c'est toi le chef, parce qu'il avait l'air d'un gamin. Alors, je me suis dit ce coup-ci, je suis foutu. Et il regarde, et il me dit mais dis donc, ça va pas du tout, ça. T'as un cœur qui fonctionne à 50%, tu reviens dans 15 jours, moi, je vais te retaper. Ah, j'ai dit, bon, d'accord. Et donc, du coup, il m'a mis 4 stents.
Et 4 stents, d'accord.
4 stents. Et donc, du coup, je suis reparti travailler de nouveau parce que je n'ai pas arrêté. Et puis, j'ai raconté mon histoire à ce chirurgien. Alors, il me dit comme ça qu'il y a des phénomènes cardiaques qu'on ne voit nulle part sur aucun appareil. Il faut que la personne soit décédée pour s'apercevoir vraiment que c'est un truc cardiaque. Et moi, figurez-vous, j'étais soigné 10 ans pour l'estomac. Et le nombre de crises cardiaques, parce qu'il reste des traces dans le cœur, ça s'appelle des stics. Et en fait, j'en avais 29 stics. Vous imaginez un peu. Ils m'ont donné un super traitement. Et aujourd'hui, j'ai 77 ans. Je monte des escaliers 4 à 4. Je bricole. Enfin bref, j'exagère un petit peu quand même, quoi. Et puis voilà le test d'effort qui arrive cette année. Et quand j'ai vu le résultat des tests d'effort, le nombre de morts qu'il y avait autour de moi, dont une amie qui est partie à Saint-Brieuc, qui est tombée dans les pommes, qui s'est réveillée à Brest 8 jours après, qui est Christiane, et son frère est mort sur la chaise en train de faire le test d'effort également. Et j'ai un autre copain, il est mort 2 jours après le test d'effort. Si vous voulez, quand je regarde quand même Google qui dit que c'est pas dangereux, patati, patata, ah ben bon, je dis que si. Et l'autre jour, j'ai une amie qui est partie à l'hôpital, elle était en début d'infarctus, et le mec dit, on va faire un test d'effort. Je vois pas la technologie qu'il faut utiliser pour faire savoir qu'on souffre quand on a un début d'infarctus. C'est pas rigolo. Et si vous voulez, je voulais raconter tout ça à la radio, parce que figurez-vous que le nombre de morts en test d'effort, c'est impressionnant. Quand on va sur Google, ils disent que c'est 1 sur 5000, mais c'est faux. Parce que moi, j'ai fait mon enquête personnelle dans plusieurs établissements, comme ça, discrètement, avec des malades. Hein. Et puis, en effet, il y a une infirmière qui m'a dit, oh, surtout, ne faites pas le test, monsieur. Vous êtes très fatigué aujourd'hui, ce ne serait pas bon. Hier, il y a un monsieur qui est mort, là. L'autre est mort en arrivant à la porte de sa voiture. Mais ça, ça ne compte pas, parce qu'on a fait le protocole. Or, ce protocole, il a été supprimé en Angleterre tellement il posait des problèmes. Et dans pas mal d'autres pays, il a été supprimé aussi. Et en fait, le test d'effort ne donne pas grand-chose comme résultat qu'une accélération cardiaque. Et puis, bon, ben, s'il vous injecte un petit produit là, dont je suis allergique aussi, eh ben, à ce moment-là, ils voient un peu plus clair sur leur truc. Mais s'il y a une intervention à faire pendant le test d'effort et que vous êtes à un petit hôpital, il faut vous remballer vite fait et vous envoyer peut-être à 50 km de là, soit à Pontchaillou à Rennes ou soit à Brest. Alors donc, autrement dit, vous avez quand même beaucoup plus de chances d'y passer. Hein.
On va marquer une petite pause, Alain, et vous allez...
Oui, je m'excuse de vous embêter.
Je vous en prie, vous ne m'embêtez pas du tout. On fait une petite pause, et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ?
D'accord, pas de problème.
À tout de suite. Nous sommes toujours avec Alain. Alain qui évoque les morts pendant les tests d'effort. Ça vous préoccupe, ça, Alain
Oui, tout à fait, oui, parce que figurez-vous que ce coup-ci, j'ai tellement eu la trouille du test d'effort que j'ai refusé, pendant un mois, j'ai refusé ma cardio. J'ai dit, écoutez, je réfléchis, mais je ne veux pas un test d'effort, je veux juste une visite avec une échographie et puis un résultat quand même pour savoir comment ça marche, quoi, la tension, ouais, enfin, ouais. Bref, un peu de tout. Et elle a accepté parce que j'étais trop stressé pour le test d'effort. Et quand on ne se sent pas bien, en fait, vis-à-vis de ce test, on a quand même des angoisses plus fortes. Vous comprenez, Olivier ? Oui. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, il y a en plus une injection qu'on vous fait, on ne sait jamais ce que c'est. Et moi, cette injection-là m'a rendu aveugle à Rennes il y a 5 ans.
Oui.
Et j'étais aveugle pendant une heure, un mal de tête épouvantable, et le cardio me dit, bah, écoutez, vous n'allez pas rester ici. J'ai dit, écoutez, monsieur, je ne peux pas rentrer chez moi, je suis aveugle, je ne vois rien, moi. Et puis, il me dit, vous en avez pour une heure, vous verrez bien tout à l'heure. Au bout d'une heure, effectivement, j'ai commencé à avoir de la lumière, et il y avait des étincelles partout, des points noirs,
oui.
Et puis, ils m'ont remballé à 4h30 de l'hôpital de Pontchaillou. Hein. On n'a pas que ça à faire. Hein. Et bref, je suis rentré comme ça avec un taximan, heureusement, il y avait un taxi, et puis j'ai été 6 mois avec des étincelles quand j'allais faire les courses dans un grand magasin. Les néons me faisaient faire des étincelles partout. J'ai travaillé comme ça. Hein. Et j'ai vu un autre cardiologue qui me suivait. Il m'a dit, là, tu as fait un mini AVC. Il aurait dû le signaler. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas correct. Et effectivement, ce produit, ben, évidemment, quand il vous a vu une injection et que ça vous fout la trouille à ce point-là, on a peur d'y aller. Hein, ça,
vous m'étonnez.
Bah tiens, et donc ma copine Christiane, qui son frère a fait un test à Saint-Brieuc, il est mort devant eux en test d'effort. Elle a fait un test d'effort et s'est réveillée à Brest sur la table de chirurgie, elle a perdu les pédales. Et puis, et non seulement ça, mais la veille, elle avait fait un malaise chez moi. J'avais dit, écoute, t'as un malaise cardiaque, c'est pas possible. Ils lui disent comme ça, non, madame, on va commencer le test d'effort. Et évidemment, le test d'effort s'est terminé en hélicoptère et puis à Brest. Hein. Et quand même, quand je vois des grands spécialistes comme ça, Olivier, et qui reconnaissent pas et qui ne devine pas l'angoisse du client qui va aller voir et qui a peur. Et si on a peur, c'est un espèce d'instinct qui se réveille en nous, des fois. Il ne faut pas aller trop loin quand même. Quoi. Et ça, ça fait peur. Et on fait de moins en moins confiance à certains cardios ou à certains médecins. D'ailleurs, le médecin renouvelle l'ordonnance. Et moi, j'avais un problème. Mon cœur ralentissait tellement la nuit que j'étais obligé de me lever et de faire le tour de la table. Et une fois que j'avais fait 4 ou 5 tours, il se rétablissait à un rythme normal. J'ai signalé. Combien de fois ? Ils ne m'ont jamais écouté.
Jamais.
Ils m'ont dit, c'est normal, monsieur. Non, mon corps se refroidissait. D'ailleurs, le cardiologue l'a fait ça. On dirait des glaçons à l'intérieur du corps et vous devenez dans l'impression qu'on est en train de se refroidir totalement. Et figurez-vous que je connais pas mal de gens qui ont les mêmes effets avec ce produit, mais enfin, on se lève, on marche, on prend un thé chaud la nuit, on se régénère. On est sensible au froid et au chaud, les cardio. Hein.
Mais vous avez eu des étincelles noires dans pendant 6 mois, je vois.
6 mois, j'ai eu des étincelles, je ne pouvais pas regarder les néons. Et figurez-vous que le cardiologue qui est parti en retraite maintenant, il me dit, ça c'est un mini AVC, tu aurais pu rester aveugle, mon vieux, et le produit qu'ils t'ont mis, soit qu'ils l'ont balancé trop vite, ou soit que tu es allergique à quelque chose là-dedans. Ça peut être de l'iode, ça peut être... Il faudrait chercher. J'ai dit ça l'autre jour parce qu'ils ont voulu me faire passer un scanner aussi pour un autre truc. J'ai dit, pas d'injection du tout, parce que c'est la même méthode. J'ai dit non. Et alors, figurez-vous que depuis 10 ans, comme je suis cardiaque, je me renseigne énormément, bien sûr, des effets pervers de certains cachets, ceci, cela. On fait attention à tout, en fait. Hein. Et je prends très, très peu de choses dans mon truc. Mais là, ils ont diminué un médicament et j'ai un cœur qui a repris son rythme normal de nuit et je ne me lève plus la nuit pour tourner autour de la table. Donc, il y avait un problème dans un médicament. Mmh. Et c'est vrai. Maintenant j'ai 77 ans, l'autre jour le cardio me dit, je demande est-ce que j'ai une garantie décennale. Vous savez bien que j'aime beaucoup blaguer et puis envoyer des vannes. Il me dit non, pas du tout. Hein. Dans 3 ans, d'ici qu'il y fait une croix dessus, parce que là, j'écoute mon pote, ça se trouve c'est moi qui sera vivant et toi qui sera parti. Hein. Parce que bref, si vous voulez, il y a un encouragement. Moi je m'accroche à la vie parce que je trouve qu'elle vaut le coup. Malgré tous les malheurs que j'écoute sur votre radio, les gens qui sont vraiment dans la mouise la plus totale. Hein. Mais si on a un moral d'acier, qu'on a été, peut-être que j'ai eu une enfance abominable, et c'est ce qui me rend fort maintenant en vieillissant. Mais pour la cardiologie, je m'intéresse énormément. Et je trouve que je vois même des joueurs de foot qui sont morts en plein
essai. Oui, hein. bien sûr. Il faut faire attention.
Ah oui, Goscinny, il dit à son cardiologue, je ne me sens pas bien, continuez de pédaler, monsieur. Oui, bon, en attendant, il fout le camp, quoi. Hein. Et on a beau dire peut-être qu'il y a un mort tous les 5 000, ou un mort, peu importe, mais en attendant, si vous voulez, l'émotion est là, et quand vous y allez et que vous savez bien que c'est un risque, on ne va pas de la même façon à l'hôpital pour se faire analyser. Hein. Mmh.
Mais dites, quand vous êtes allé lors d'un séjour à l'hôpital, je vois que vos enfants en ont profité pour vous voler.
Ah ben tout a été... J'ai eu un moment extraordinaire dans ma vie. Figurez-vous que ma femme est décédée en même temps, 6 mois avant, et d'un cancer au pancréas, et ils n'avaient rien trouvé du tout.
Oui.
Bon, elle est partie. Il y a eu un testament de fait. Moi, j'étais en colère aussi à l'époque. J'étais pas bien. Et puis, évidemment, j'ai une villa au bord de mer et tout est parti. Tout est parti en vrille. Il a fallu que je rachète ma part ici. Il a fallu que je travaille 15 ans pour me refaire. J'ai vu personne. Et ma fille aînée m'a demandé de la faire légataire universelle, sinon je ne verrai plus les petits-enfants.
Oui.
C'est ce qui s'est passé, ça s'appelle du chantage. L'autre, alors, m'a envoyé un SMS en disant que tout ce qui l'intéressait, c'est mon décès, et elle verrait ça avec son notaire après. Elle est super voyante, extra-voyante d'ailleurs. Elle parle avec les morts, mais pas avec des vivants. Donc j'ai une famille, si vous voulez, tout à fait restreinte. J'ai personne, en fait. Mais je vis très bien comme ça, parce que je trouve que quand on aime que les gens, il faut leur parler quand ils sont vivants, Olivier.
Complètement.
Faut pas là. Et aller vers eux quand ils sont vivants. Moi, j'ai des petits-enfants qui viennent garer leur voiture devant la maison, ici, et je ne les connais plus. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu. Hein, donc, c'est comme ça. Mais malgré ces vacheries qu'on m'a fait, j'ai toujours cru dans mon métier, parce que c'était une passion. Mon métier était une passion et j'ai connu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné du travail, qui m'ont fait confiance. Et ça a été extra pour moi. Parce que ce que les gens m'ont apporté de bonheur en me donnant du travail et m'aider à m'en sortir. J'ai des artistes peintres qui m'ont fait des beaux tableaux. J'ai des brocanteurs qui m'ont donné des meubles. Bref, j'ai trouvé des amis sur mon chemin que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est extra. Ça s'appelle la chance.
Ils vous ont volé vos enfants ou en fait j'avais pas compris.
Ah oui, de toute façon, attendez, le culot. Ma fille, je savais qu'il allait aller dans ma villa au bord de la mer.
Oui.
Puisque moi j'avais dit, je vous laisserai la villa de bord de mer pour vous, et moi je voudrais récupérer mon bâtiment hein, pour vivre dedans. Ils m'ont dit non, que tout est à nous, t'as rien à toi, t'es emmené. Enfin bref, ma notaire m'a extra bien défendu. Madame Roland. Et figurez-vous que au bord de la mer, j'avais tous mes effets personnels, tous les souvenirs et tout ça. Tout ça, ça a été vidé jusqu'à rien du tout. Rien. Mes affaires personnelles, tout est parti. Et sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas grave parce qu'en fait, ce que j'ai racheté après est encore plus beau. Donc on oublie. Mais c'est ce moment pervers des enfants aujourd'hui que je vois autour des personnes âgées.
Oui.
Ils pensent surtout à l'héritage. Et puis hier soir, quand j'ai écouté l'histoire de l'euthanasie qui était bien présentée par quelqu'un de... Attention, on sent bien que le français était bien élaboré. Mais sincèrement, donner le droit de vie et de mort, c'est important, c'est très terrible, parce que quand on va voir un médecin, c'est pour la vie. Il donne la vie, ce mec-là. Il donne un confort de vivre. Et là, on lui donne l'autorisation pratiquement de se décharger de la mort de quelqu'un, quoi. Et je trouve ça dégueulasse, quoi, parce qu'en fait, moi, j'ai ma mère qui a demandé la mort dans un EHPAD, et on lui a accordé sans rien me dire. Mais les deux derniers jours qu'elle devait vivre, on m'a appelé pour aller voir parce qu'il y avait des papiers à faire. Et je l'ai assisté tout seul à l'enterrement. Il n'y avait personne de la famille, il n'y avait personne, juste tout seul. Et le résultat des courses, si vous voulez, je me dis 90 ans de boulot, 50 ans de boulot. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner tant d'amour et tant de travail pour en arriver là, quoi? Je trouve ça absolument dégueulasse.
Ben oui, mais parfois, la vie est
injuste. La vie nous fait des sales tours.
Oui.
Mais Olivier, moi j'ai eu de la chance, parce que ça s'appelle un facteur de chance terrible, c'est que j'avais un super métier, radio-télévision,
oui,
antenne, et juste à ce moment-là, il y a Sarkozy qui dit la TNT en Bretagne, ça c'est le top.
Oui, bah là, ça a été beaucoup, beaucoup de travail pour vous, là, d'un seul coup.
C'est terrible, et en plus, je vais dans un grand magasin, et l'antenniste venait de se tuer deux jours avant. Parce que vous vous rendez compte un peu.
Oui.
C'est terrible, quoi. Mm-hmm. Donc, le destin m'a mis sur un chemin et je ne m'en suis jamais écarté. Et je trouve que personnellement, en étant correct avec tout le monde et en étant un homme tout à fait droit et intelligent, on arrive à s'en tirer. Avec le métier qu'on a, ça dépend du métier. Parce que notre destin va jouer avec le métier qu'on va avoir. Parce que ça va nous permettre de bien vivre d'abord, et puis de gagner un peu d'argent. Et puis là, la solution de la TNT qui tombait bien à ce moment-là, c'était extra, quoi. C'était formidable. Et puis,
ça a fait un sacré marché pour vous, là, pour les...
Mais oui. Et puis en plus, je suis technicien depuis l'âge de 20 ans. J'ai fait tous les stages techniques à Paris. J'ai travaillé 20 ans chez Grunding, Philips, Thomson, enfin toute la clique. Et j'ai tellement appris ce métier que j'étais performant, bien sûr, jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'on me proposait des places de chef d'atelier à 70 ans. C'est pour dire quand même que c'était bon, hein, parce que tout le monde vous propose ça. Genre.
Bon, ça vous fait ça vous fait une bonne petite retraite, ça, mon cher Alain.
1540 euros par mois.
Ah bon?
Ben oui, parce que figurez-vous que j'étais malade à un moment donné, j'ai fait une grosse dépression, j'ai eu des trous, j'ai fait l'armée 5 ans, il y avait 18 mois qu'on m'a foutu en l'air,
oui, hein,
à l'époque, vous savez bien comment c'était. La paye de l'armée, c'était pas bien terrible à l'époque, enfin bref, j'ai eu des moments hauts, des moments bas, j'ai déposé mon bilan un coup parce que j'étais avec une dame et que j'étais fou amoureux d'elle, et puis bref, ça n'a pas marché au niveau affaires. Des fois nous avons des hauts et des bas dans la vie, hein, et c'est pas facile. Puis après, j'ai rencontré un monsieur qui était extraordinaire avec moi, et c'est lui qui m'a montré les affaires, comment gérer tout ça. Et j'ai beaucoup d'affection pour cet homme-là, qui a 90 ans maintenant. Et sincèrement, je lui téléphone encore pour lui souhaiter une bonne et heureuse année. Et on est resté en très bons termes. Et c'était mon père. Il m'a apporté plus que mon père. C'est formidable. Quand vous connaissez des gens comme ça, c'est dans votre vie, c'est le top quand même.
Ah, c'est top, ouais, vous avez raison. Ouais, ouais.
Ah oui, ce sont les relations qui sont intéressantes dans une vie. Ce n'est pas nécessairement la famille. La famille, des fois, peut vous détruire. Parce que c'est la jalousie, c'est vous êtes bon. Alors, eux, ils ont du mal à comprendre. Et petit à petit, peut-être la famille vous en veut. La jalousie se fait autour de vous, des fois, dans une ambiance de famille terrible. Et puis, les gens de l'extérieur qui vous apportent le plus, ah ben ça, je trouve que c'est très intéressant. Puis en plus, il faut dire que je suis un grand valentineur. Et je suis resté souvent à écouter les gens qui étaient dans le malheur et qui avaient des belles histoires d'amour chez eux, qui me racontaient. Je tombais sur des veufs qui mettaient encore le couvert 6 mois après que leur
femme était décédée. Vous avez le contact facile, vous, Alain, en plus, quoi.
Oui, tout à fait. Et figurez-vous que ça, j'étais un timide épouvantable étant jeune. Et c'est après que la vie m'a appris à avoir ce contact avec les gens. Et ce contact a été un chemin de vie formidable. Et ça, je reconnais que ce sont les gens qui m'ont apporté du bonheur. Voilà.
Bon. Et alors, vos petits-enfants, j'ai pas compris, vous ne les voyez plus ?
Ah ben, les petits-enfants, je les vois plus depuis 15 ans.
Parce que vos...
Je les connais plus.
C'est dingue, ça.
Ah oui ? Et puis non seulement ça, mais si j'aurais signé légataire universel à ma fille aînée, attendez, je vous dis une chose, hein, je n'avais pas d'enfant jusqu'à l'âge de 30 ans. À 30 ans, je suis désolé. Je fais un dépôt de bilan, ça marche pas bien, j'adore cette femme. Et malheureusement, je suis là au bord de la mer, tout seul, en train de demander à Dieu lui-même, donne-moi au moins un enfant. Je veux un enfant avant de partir. Et on me répond, mais tu es marié avec une dame qui ne peut pas en avoir. Alors moi, je dis, mais comment je vais faire? Et puis, un an après, j'étais avec une femme qui avait trois enfants. Trois enfants. Et moi, j'en ai fait un aussitôt. Donc la fille aînée était désirée, hein. Content, qu'il y a un père fou d'avoir... J'ai eu une deuxième fille,
oui.
Tout se passait très bien, et puis petit à petit, les enfants grandissent et ils changent de position, d'avis, ils ont des contacts différents, des optiques différentes, et moi, à l'époque, je travaillais énormément, je travaillais pour, jour et nuit pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient... Je pensais rendre heureux en gagnant de l'argent, mais c'est faux. Si vous gagnez beaucoup d'argent, méfiez-vous, c'est une jalousie qui s'installe autour de vous en disant « celui-là, il gagne beaucoup, et il travaille tout le temps, il n'y a que ça qui l'intéresse ». Malheureusement, les hommes, des fois, se disent « tiens, mais comme je gagne beaucoup, ben, je vais leur offrir des vacances en montagne, je vais leur offrir des choses qui les rendront plus heureux, et en fait, l'argent, c'est le bonheur quand même. Hein. C'est du bonheur en billets, hein. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est beaucoup d'emmerde quand on travaille dans un métier comme ça. Alors, résultat des courses, si vous voulez, eh bien, mes filles grandissent. Ma fille, elle m'adore jusqu'à l'âge de 20 ans.
Oui.
Et puis, d'un coup, elle fait un traitement pour maigrir. Mais alors, un traitement de cheval. Hein,
pourquoi elle avait des problèmes de poids, votre fille?
Pas du tout, mais elle voulait plaire. Vous savez bien comment c'est les filles à 20 ans. Oui. Même qu'elles sont jolies, un peu enrobées, mais elles sont jolies. Parce que les hommes n'aiment pas nécessairement des femmes maigres comme des coucous. Hein. Ils aiment aussi des femmes pulpeuses. Et une jeune fille pulpeuse, les hommes adorent ça. Elle avait du succès. Hein. Mais elle dit, je vais maigrir parce que si, ça sera bon. Elle maigrit. Et puis là, elle change de comportement, elle devient plus agressive, elle n'est pas la même, elle connaît un autre bonhomme qui devient un concurrent, patati et patata. Puis un jour, elle arrive à la maison, Olivier, elle me dit « je suis enceinte ».
D'accord. Bon.
Ah ben moi, je trouve ça génial, dis, parce que figure-toi que moi, je voulais un bébé, j'avais 50 ans, et si tu ne le gardes pas, ben moi, je quitte ta mère. J'ai fait du chantage, en fait. Et puis elle me dit comme ça, bah écoute, si tu vraiment tu le veux, bah moi je le fais. Et le mec avec qui j'ai annoncé ça, il me dit de d'avorter quoi. Alors j'ai dit non, moi je suis pas pour l'avortement. t'as fait un vivant, je sais pas ce que c'est garçon ou fille, mais garde-le et fais-moi plaisir. On va le mettre sur mon nom et je vais l'élever. J'ai 50 ans, y a pas de problème. L'affaire se passe assez bizarrement. C'est-à-dire qu'elle dit au gars, et ma femme à l'époque est d'accord pour l'avortement également. Moi, je suis pour, parce que je suis prêt à les quitter si jamais elle avorte, enfin, pour ce bébé. Alors, donc, en fait, elle le garde. Et puis, un jour, je dis, bah, écoute, il faudrait quand même dire aux parents de ce gars-là que t'es enceinte et que, ma foi, ils verront jamais plus le bébé parce que moi, je vais le prendre sur mon nom et ce sera terminé. Donc, deux jours plus tard, moi, je vais voir ses parents, et la mère, très bien, le père aussi. Ils disent, puisque mon fils a fait ça, on assume tout. Il n'y a plus besoin de vous occuper de rien. Votre fille, elle a un appartement qui l'attend, et elle a eu tout ce qu'il voulait avec ses parents. C'est génial. Du coup, le bébé est né, c'est une petite fille. Et donc, je l'adorais, bien sûr. Hein. Et puis, la petite fille était là pendant quelques temps, je l'ai gardée. Je suis un grand-père un peu gagueur. Hein. Et puis, quand ma femme est décédée, j'ai plus eu personne. Et ma petite fille a 20 ans, elle est à l'université de Rennes. Mais même sur Facebook, on a supprimé les images pour pas que je les voie.
C'est fou, ça. Pourquoi, en fait? Pourquoi?
Ben, tout ça parce que j'ai pas signé tout mon bien.
Oui, c'est ça. Histoires d'argent, en fait.
Histoires d'argent. Et j'ai été dans l'hôpital il n'y a pas tellement longtemps. Et je suis allé dans les chambres la nuit me balader parce que je suis un insomniaque, moi. Alors je me balade et puis j'entendais une grand-mère qui se plaignait. Et puis moi, je parle breton. Je suis breton. Non, avant d'aller à l'école, je ne parlais que breton. Qu'est-ce que j'ai eu comme claque, bidouf. Bonjour. Et puis, Olivier, je vais rentrer dans les chambres et puis j'entends cette grand-mère qui se plaint, tout ça. Elle avait tout donné. Et elle ne pouvait même pas mettre la location de la télé dans sa chambre, c'était 5 euros par jour. mais plus personne ne venait la voir parce qu'ils avaient tout eu. Alors elle me dit, écoute Alain, ne donne pas tout, parce qu'ils ne t'aimeront plus après. Et c'est la maladie aujourd'hui d'avoir les sous des anciens. Et vous savez, Olivier, moi, je n'ai pas une mauvaise mentalité, loin de là. Mais au Covid, quand je vois le nombre de morts qu'il y a eu, et les affaires, comment elles ont tourné, c'était l'argent des vieux. C'était l'argent des vieux. C'est pour ça qu'ils ont acheté des belles baraques, des ceci et des cela. Et aujourd'hui, eh ben, nous avons le point d'arrêt parce que ça, c'est fini. On a consommé tout l'argent de tous ces anciens. Et sur votre radio ce soir, je suis content de dire ça parce que j'ai des pensées comme ça quand je vois tous ces personnes âgées dans la solitude la plus totale, en campagne surtout, et même en ville, et qui sont dans un désespoir moral terrible. Alors moi, évidemment, j'aurais dû être prêtre. Comme ça, j'aurais pu au moins écouter.
Vous auriez eu envie d'être prêtre ? Vous auriez eu envie d'être prêtre ?
J'ai eu envie d'être prêtre à l'âge de 10 ans. J'ai eu un très très grave accident d'échelle et j'ai été dans le coma 6 mois. Mmh. J'étais aveugle 1 an. Ma mère ne voulait pas me soigner parce qu'en fait, elle ne voulait pas déclarer l'accident. Elle m'a foutu dans le lit, elle est partie comme ça. Et donc, j'ai voyagé dans l'espace-temps. C'était un tunnel tout noir avec une lumière en haut. Mais je ne souffrais pas du tout. Mais je ne comprenais pas qu'on m'abandonnait. J'avais 7 ans et demi. Mmh. Et j'ai tellement cru en Dieu que j'ai retrouvé ma vue et mon visage est revenu avec une fracture faciale. Mon visage est revenu comme il était. Et les médecins n'en croyaient pas, d'ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé en plus vers la religion, parce qu'en fait, on y croyait dur.
Oui.
Et je vais passer ma grande communion. Et donc, il y a un père blanc, un moine qui était là, père blanc d'Afrique, et que il nous fait faire un... Vous savez, on fait un 3 ou 4 jours de stage pour dire que bon, la religion est la meilleure, qu'on va recevoir Dieu. Quoi, voilà. Et puis, cet homme-là me pose une drôle de question. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est la masturbation ? Oh, je dis, mais ça vous regarde pas.
C'est le curé qui vous demande ça ?
C'est le curé qui demande ça. Ah, je lui dis, mais non, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, je suis choqué même qu'il me demande un truc comme ça.
Vous avez quel âge quand il vous demande ça ? 7 ans et demi ? 11 ans.
11 ans.
D'accord.
Et j'étais à faire ma grande communion. Mmh. Donc, mon frère fait la grande communion aussi avec moi. Et je lui demande, dis donc, qu'est-ce qu'il t'a demandé comme... Parce que les péchés, vous savez, quand on invente des péchés, on peut en inventer, mais on n'a pas véritablement fait un péché, parce qu'on ne sait pas faire la différence de prendre une pomme d'un pommier et de le manger. Est-ce que c'est un vol ? Bon, on lui dit des conneries, n'importe quoi, de façon à dire quelque chose, en fait. Et puis je demande au frangin, qu'est-ce qu'il t'a demandé ? Ah ben, Kimby m'a demandé alors deux trucs, dis donc. Et en fait, à tous les gosses qui faisaient la communion, il avait demandé ça. Le voilà chez moi, même pas un mois après. Et puis il dit à ma mère, comme ça, vous avez un fils intelligent. Si vous voulez, on prend tout en charge. Et puis on le met dans
un séminaire.
À Saint-Jean. Oui. Et puis en plus, il a l'air très croyant. Alors je dis à cet homme-là, écoutez, monsieur, moi, c'est vrai, j'ai confiance en Dieu, mais je n'ai pas confiance dans les hommes. Il avait 11 ans. Et puis il me dit comme ça, mais ah bon, pourquoi tu dis ça ? Ben, j'y réfléchissais. Et puis, j'ai voulu dire à ma mère, tu sais, qu'est-ce qu'il pose comme question, celui-là ? Ma mère m'a dit, tu n'as pas le droit. C'est un bel homme. D'abord, le bonhomme lui plaisait. Et c'est un bel homme, il a l'air plus intelligent que toi, tu t'es. Parce que j'étais la bête à battre chez moi. Hein. Moi, elle lui finait, elle m'en voulait. Elle m'en voulait à mort. Elle voulait me noyer à l'âge de 3 ans.
Oh,
je vais vous dire. Oui, oui, oui. Et puis après, on était torturés dans une maison. On criait tellement qu'il n'y avait personne qui les entendait. Parce qu'elle
par votre mère ? Par votre mère ?
Oui, oui. Ma mère était sadique. Une sadique de haut niveau.
Et votre père ne disait rien ? Votre père ne disait rien ?
Vous savez, je vous dire une chose, Olivier, parce que je vous ai sur l'antenne, ce soir, ça me fera vraiment plaisir. Parce que figurez-vous que les hommes qui sont faibles du bazar, ils cèdent à tous les caprices de la femme. Et la femme, moi j'allais montrer mes mains à mon père en rentrant. T'as vu, papa, j'ai été battu aujourd'hui. J'ai des coups dans le dos et partout.
Oui, il disait rien.
Et il faisait rien.
Elle le tenait, en fait, votre mère.
Elle le tenait par le bigoudi. Alors, figurez-vous qu'il y a eu des scènes, parce qu'il buvait beaucoup. Il y a eu des scènes, et puis bon, moi, j'avais mon frère à côté de moi qui avait 1 an et demi de plus, de moins. Et moi, j'avais un autre petit frère de 4 ans dans les bras, et on allait se cacher la nuit tellement on avait peur de se faire tuer avec eux. Et donc, j'ai subi cet alcoolisme, cette violence, Et je me suis engagé 5 ans dans les parachutistes avec le colonel Bijard pour chercher la mort et me foutre en l'air. À 20 ans, je ne pouvais plus supporter.
Vous ne supportiez plus quoi, la vie, en fait?
Ben, je supportais la saloperie de vie que j'avais eue. En fait, cette torture, cet accident qui m'a perturbé. J'ai été réformé 2 fois à l'armée. Hein. Ils n'en voulaient pas. Et la troisième fois, je ne sais pas où aller. Alors le mec me dit, ben, c'est simple. Tu as 2 contrats. Il y en a un, c'est la Jeanne d'Arc, tu pars sur le tour du monde. Et l'autre, tu fous le camp dans les parachutistes, à Pau. Ah ben, je prends les parachutistes. Bon, je passe dans les parachutistes. J'ai fait Bayonne, la Citadelle, tout ça. Et puis, j'étais très, très, très bon. Et en un an, j'étais à Saint-Mexant-l'école, j'étais sous-officier. Et je me suis dit, et à la fin, ils m'ont dit encore, tu as eu un accident quand même très grave, faut faire attention. Ça. Bref, j'ai pris toutes les missions périlleuses, les stages commando les plus terribles, patati patata. Et puis un jour, j'ai eu un effet extraordinaire à l'armée. Les gars, quand ils se blessaient, ils venaient vers moi. Ils n'allaient jamais vers les autres. Et c'est moi qui leur portais secours. Je les soignais, et ils ne souffraient plus. Et je les rassurais. Et un jour, il y a un gars qui se prend un chargeur de canon dans la figure, et il se fait couper la gorge, la carotide n'est pas coupée, heureusement. Et le gars me dit, est-ce que je vais mourir? Il a 20 ans. Et je lui réponds, non, tu serais déjà mort parce que ta carotide n'est pas coupée. J'ai fait 30 km avec lui.
Qu'est-ce qu'il avait reçu un éclat d'obus ou il avait, qu'est-ce qu'il
non,
avait...
non, c'était un chargeur qui a explosé dans le canon de son fils sans recul.
Oui.
Et ça, la balle qui est dans son fils sans recul, il faut tirer d'abord avec une balle traçante. Ça vous donne le chemin pour guider l'obus qui va y tirer après.
Oui, oui.
Vous voyez ? Et résultat des courses, il prend le chargeur dans la gorge, il a explosé. Et ce gars-là, il a une plaie énorme à la gorge. Mais la carotide n'est pas coupée. Mais il a conscience en moi, il va vers moi, il me demande qui va mourir parce que, disons, tu serais déjà mort, la carotide coupée, c'est fini. J'ai fait 30 km la main sur son cou. Et puis, je l'ai emmené jusqu'à l'infirmerie qui était à 25-30 km de là.
Et où ça se passait, ça? Où ça se passait?
À Montmelon.
À Montmelon, d'accord.
Et le résultat des courses, pendant ces 30 km, en fait, j'ai compris que je n'étais pas fait pour tuer les autres. J'étais fait pour les aider. Et là, je dis à l'armée, je démissionne, j'arrête mon... Je devais partir en Allemagne, hein, parce que j'étais bien eu par les cadres, et je réussissais très bien, puisque je terminais adjudant dans la 5e année, j'étais très bien noté, un homme d'honneur, j'ai compris que l'honneur, c'était important.
Vous étiez parti pour faire une carrière quand militaire. Même, non?
Oui. Ah oui, et je devais partir en Allemagne. Et donc, le résultat des courses, si vous voulez, comme ce mec-là, je l'ai sauvé et que j'ai vu que l'émotion qu'il avait, je me suis dit, je ne vais pas continuer cette carrière militaire qui est faite pour faire des commandos, des machins, ceci, cela. Je sors et je vais faire de la télévision comme j'avais commencé dans ma jeunesse. Et je repars au culot, chercher du travail, et je travaille dans la télévision, je trouve du boulot tout de suite. Hein. Et puis je repars dans mes études de télévision, je ne regrette pas, parce que j'étais réserviste pendant longtemps, j'ai été reçu à Montpellier en 2000 pour voir tous les cadres, les anciens qui étaient là-bas. Et j'ai eu des très bonnes relations avec des hommes qui sont devenus commandants de gendarmerie.
Et vous étiez à Montmelon pendant les disparitions, donc, ou c'était plus tôt tout ça?
Non, ah ben, les disparitions, c'est après le Charal. Oui. C'est après.
Le Chanal, bon, Chanal, pas Charal.
Chanal, voilà, le Chanal. Le
Charal, c'est le steak.
Oui.
Chanal, c'est...
oui, c'est vrai. Mais quel salaud quand même, hein, parce que sinon, il est... Ah, quel salaud.
Ça, c'était une sacrée histoire à Montmelon, je me souviens.
Ah, ça, c'est une sacrée histoire.
Qui a duré très longtemps.
Oui. Ah oui,
les disparitions des jeunes, ça a duré sur une dizaine d'années, hein, ces disparitions.
Oui, mais figurez-vous qu'Olivier, à l'armée, c'est assez secret. On diffuse pas trop les informations de ce qui se passe dans la famille, dans l'armée. Elle est muette.
La grande muette.
Oui. Et alors, figurez-vous qu'il y a eu d'autres bonhommes qui ont disparu dans le fort d'Eton. Le fort d'Eton, là-bas, à côté de Besançon, c'était un fort disciplinaire. Et les gars étaient maltraités dans ce fort, c'était terrible. Et il y avait des mecs qui s'évadaient, qui partaient en Suisse et qui ont disparu. Et on en parlait. Mais même s'ils auraient disparu de cette façon-là, on ne les a jamais retrouvés. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Parce que vous savez, parmi tous ces hommes-là, on a aussi les maniaques, les tarés, de tout. Oui, oui, oui. 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 Moi, l'homme que j'ai rencontré extraordinaire chez Darnley Parachutiste, c'était le général Bujard. C'est un homme qui... Il électrisait les gars, tellement cet homme-là n'avait jamais d'armes sur lui. Mais il avait assez de ses parachutistes pour le protéger. Et quand il avait fini de nous recevoir, il montait sur une table et il nous faisait jurer fidélité. Donc les gars qui ont fait l'armée avec Bujard, ils ont eu cette séance. Et c'est le seul général que j'ai vu faire ça. Et pour moi, c'était un honneur de le servir parce que c'était un homme extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer tous ces hommes-là quand on réfléchit après. Et aujourd'hui, à Montpellier, à l'EAI, j'ai encore des contacts. J'ai trouvé que c'était formidable d'avoir cette aventure vraiment à l'armée et d'être formé, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ont oublié ce que c'est l'armée.
Il n'y a plus d'armée maintenant, c'est plus la même chose.
Mais il n'y a plus d'armée, Olivier.
Plus du tout.
On ne peut plus emmener non plus 50 000 hommes se faire tuer d'un coup. C'est terminé, ça.
C'est terminé, complètement, c'est terminé.
Mais oui. Et moi, je les comprends. Moi, j'aurais un petit-fils qui partirait aujourd'hui. Je voudrais qu'il ait une formation extra avant d'y aller. Au bout de 3 mois, on les balançait en Afghanistan, les gars. Parce qu'ils m'ont raconté, les parachutistes. Hein. Et on parle de joints et de drogue et tout ce qui s'ensuit. Mais dans les parachutistes, il faut voir le nombre de mecs qui sont dopés avant d'y aller. Il ne faut pas croire que c'est facile de franchir. Vous savez, quand on voit tous les malheurs qu'il y a aujourd'hui, mais ce qui m'a l'autre jour choqué à la télévision, et qui, je connaissais l'histoire des Tutsis, des Hutus, mais je pensais pas quand même que le gouvernement n'aurait pas bougé et qu'ils ont laissé les massacrer 1 million de personnes. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Parce que vous savez, on vient une fois sur la Terre, on fait un voyage et c'est tout.
Ouais,
voilà pour
ouais.
moi. Mmh, oui. C'est vrai, hein, Olivier.
C'est vrai, c'est vrai.
Je suis heureux
c'est
ce soir d'avoir pu déballer ce que j'avais à déballer.
Mais moi aussi, mon cher Alain, moi aussi, j'étais ravi d'échanger avec vous. Portez-vous voilà. bien, en tout cas, puis rappelez-moi un de ces quatre.
Ah oui, parce que je suis atteint d'acouphène depuis 40 ans de mon vie, puis aujourd'hui, j'ai une sacrée crise.
Ah, mon pauvre, en plus, c'est désagréable, ça.
Non. Mais les acouphènes, j'ai fait une étude comportementale, j'ai fait une étude de caractère, la recherche, je me suis mis dedans, vraiment, pour savoir tout ce que c'est. Mais apparemment, personne ne sait.
Ah non, c'est très compliqué, ça reste assez mystérieux, je crois.
Ah oui. Et puis si vous passez à Guingamp, j'habite juste en avant de Guingamp. J'habite juste dans le secteur. Vous serez bien reçu.
Écoutez, c'est très gentil à vous. Merci en tout cas. J'étais ravi d'échanger avec vous. Et puis portez-vous bien, mon cher Alain.
J'ai une croix et je crois que j'ai une belle étoile quand même.
Très bien. Au revoir, Alain.
Salut.
Au revoir.